Merci.
88.3. Radio Campus.
Contestation.
Hermano.
Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir à vous, bienvenue sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. À bâton rompu, magazine d'infos tous les mardis de 19 à 20 heures avec les chroniqueurs les plus cool de l'audiovisuel. Asma, bonsoir.
Bonsoir Hassan, est-ce qu'on m'entend ?
On t'entend, est-ce que toi tu t'entends ?
Oui, bonsoir à tous.
Tu nous parles ce soir d'un film, hein, c'est le film Au Boulot.
Je vous parle du documentaire de François Ruffin et Gilles.
Oui, c'est ça, ils disent comédie documentaire, je crois.
Oui, ça peut, c'est un bon qualificatif.
Ben, je crois que c'est comme ça qu'il veut qu'on en parle. François Ruffin, en tout cas, François Ruffin,
c'est honnête.
Homme politique, journaliste, documentariste aussi, donc du coup, et du réalisateur Gilles Perret.
Oui, exactement. Il n'était pas du tout partant pour faire ce film.
C'est vrai ?
Oui.
Ah bah tu nous raconteras tout ça.
Il avait peur de la trouver insupportable.
Bah oui, justement, parce que dans ce
la
film...
La fameuse dont je vous parlerai tout à l'heure.
Voilà, dans ce film joue une certaine Sarah Saldman, que je ne connaissais pas jusqu'ici, que j'ai rencontrée justement à l'occasion de la sortie de ce film. Et je peux vous assurer que je me portais vraiment bien sans la connaître, quoi. Réellement. Victor est là. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes.
Victor.
Non, c'est bon, tu m'entends ?
Oui, ouais. Ben, je t'entends.
Ah, c'est bizarre, on n'a pas de retour, nous, de notre côté.
Non,
on vérifie le viewmètre, hein, par hasard. T'es pas en pré-écoute, rassure-moi.
Ben non, pas du tout.
Non, ça va, ouais. Mais bon, bah, écoute, c'est trop bizarre.
Et je monte tout, alors.
Là, on s'entend.
Ah oui, c'est beaucoup mieux.
Le bouton était un peu.
Ah, voilà.
Victor, oui, qui m'accompagne depuis quoi ? 3 ans maintenant ?
Depuis 2021, ouais.
Eh ouais.
Ouais,
ça commence à se faire. On va offrir un coup aux autres à boire.
Si possible, après le 5, parce que sinon, je touche pas mon RSA avant.
Steven, bonsoir.
Salut, non, c'est pas Steven,
Quoi donc ?
Désolé, Snoop Dogg.
Ah oui, parce qu'il est arrivé, oui, il faudrait...
Oui, non, faudrait décrire son look, hein, quand même. Hein.
Oh, ça va. Alors, pour les auditeurs auditrices, je porte un durag, hein, un durag, bon, mes confrères...
C'est quoi un durag ? C'est ça, c'est ce que tu as sur la tête.
C'est ça, c'est une sorte
truc,
de
bandana. Le truc des rappeurs.
Non, c'est pas un truc des rappeurs, c'est pour les cheveux.
Ouais, puis là il a remis ses lunettes sérieuses, mais tout à l'heure il a une lunette de soleil là, magnifique. Bon. Depuis qu'il a fait le freestyle tout à l'heure des 30 ans là, voilà, on l'a perdu. Hein.
Généralement, Steven est en colère. Ce soir, tu es tout doux. Tu es cultureux même, j'allais dire.
Carrément.
Ah, oui. Tu nous parles d'un festival. Hein,
ouais, je vous parle de deux événements autour de la source. Et je voulais utiliser une expression de Frédéric Douglas pour parler de ça. Je rassemble des bouts de monde pour parler de la source.
Allez, superbe.
Superbe. C'est beau,
hein. Donc, un festival, puis une exposition sur le quartier de la source, le quartier d'où nous vous parlons, chers amis auditrices et auditeurs. Je vais y arriver, les jeunes me forcent.
Bon, moi, je dis auditeur et auditrice, moi, par exemple, ça marche très bien aussi.
Alors, le monsieur que vous entendez là, c'est Thomas. Thomas, il est en studio avec nous également. Bonsoir, Thomas.
Salut, Hassan.
Thomas, rédacteur en chef de la Rédac Pop, le média citoyen participatif de Radio Campus Orléans.
Rédacteur en chef,
c'est ça ou pas, les autres ?
Bon, je vais demander mon augmentation à Radio Campus, c'est ça ?
Ceci ne me concerne pas du tout. Et tu es avec nous pour une info locale du jour.
Ouais, c'est ça.
Un collectif qui s'oppose à la fermeture de la poste dans le quartier des Blossières à Orléans, qui a fait une action ce matin.
Exactement. Alors eux, pour le coup, ils sont un peu moins chill que notre Snoop Dogg à ma droite. Mais bon, enfin, chill. Est-ce qu'ils sont violents au point de devoir fermer carrément le bureau de poste qu'ils ont occupé, c'est-à-dire celui de Dunois ? Bon, on va peut-être pas exagérer quand même, mais c'est ce qui s'est passé.
Voilà. On en parle. On écoute tes infos juste après Mourad Guichard, journaliste indépendant, qui décrypte pour nous quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui, il nous parle du traitement par certains médias français du traitement de l'annonce du mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien. Il nous présente également un activiste qui est sur les réseaux sociaux, un gars, je suis devenu vraiment fan, il s'appelle Ashton, il fait du rap et il fait aussi des vidéos d'information. On va vous le faire écouter. Mourad l'avait reçu dans son émission sur le Média TV. Et puis Mourad démarre avec une bonne nouvelle. On écoute tout ça. Bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Merci de nous accompagner.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir
merci
à toi Hassan.
Merci à toi d'être en studio avec moi pour ta chronique. Une chronique qui commence aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, par de la musique et de la joie. Samba, samba et joie parce que nous avons appris que la plainte contre toi par Yves Alphé alias Goldo Faf, rappeur identitaire, une plainte pour diffamation et quoi d'autre, je ne sais même plus.
Oh bah il parlait de, alors en fait c'était des propos tenus notamment sur cette antenne et puis
oui,
un nombre de papiers assez conséquents, hein, qui fait qu'il a poursuivi notamment pour des raisons d'expression outrageante, de termes de mépris ou d'invective à son encontre, hein. Donc on aurait tenu et qu'aurait tenu un certain nombre de médias dont l'Humanité, le Petit Solonio, Max Centre, enfin bon il a attaqué à peu près tout ce que compte la région de médias influents. Et donc, je tenais à tirer un coup de chapeau à Maître Le Marchand, donc notre avocate commune orléanaise, qui a donc obtenu cette ordonnance de non-lieu qui vient d'être. Je viens de la recueillir là, au courrier et qui donc a été prononcée il y a quelques jours. Et il y a toujours moyen, alors il y a toujours possibilité de faire appel.
Oui, bien sûr.
Je le précise, mais enfin bon, le fait est qu'après une longue instruction, la juge a décidé de classer l'affaire et donc de prononcer un non-lieu, car ça n'était pas caractérisé, qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour aller vers un procès, donc bravo à nous.
Hein, vraiment, parce que oui, absolument, il parlait d'injure. Alors, à mes auditeurs et auditrices, vous le savez, vous qui écoutez cette émission, il n'a jamais eu d'injure dans cette émission, en tout cas pas sur lui, mais une analyse d'un point précis. Je vous donnerai la date de la diffusion de cette émission sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez aller écouter. Il existe donc des podcasts. Donc bravo à toi, bravo à nous. On salue également les collègues de Max Centre qui était aussi sur la plainte. Et puis Émilie Rancien, une collègue qui travaillait à l'époque au journal de Sologne, il me semble.
C'est ça, le petit Sologno, ainsi que la responsable du titre Frédéric Rose. Alors malheureusement, ce titre a disparu
malheureusement.
Pour des raisons économiques, à la rentrée, d'une manière assez violente. Et donc, j'en profite également pour leur faire un coucou fraternel.
Bien sûr. Le deuxième sujet, c'est le mandat d'arrêt par la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ancien ministre de la Défense également, et puis un dirigeant du Hamas. Cette information a donné lieu à des analyses, à des réflexions sur pas mal de chaînes en France et dans le monde, notamment sur CNews, évidemment. Écoutez, c'était samedi.
Au crime de guerre, crime contre l'humanité. Vive réaction évidemment du côté israélien qui estime que évidemment tout ça n'a aucun sens, qu'on ne peut pas mettre en parallèle des chefs, un chef d'État élu démocratiquement et un chef terroriste.
Mais le signe d'équivalence symboliquement c'est désastreux. C'est vrai, c'est un chef d'État démocratiquement élu, un terroriste sans foi ni loi, prêt à tout de l'autre côté. Non mais Il faut dire les choses. En effet, ce qui se passe dans la bande de Gaza est effroyable. Mais le Hamas a créé les conditions d'une tragédie parce que on ne peut pas combattre des gens sans faire de dégâts collatéraux quand ces gens se sont mélangés volontairement à la population civile. Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité et surtout qui ont organisé eux-mêmes la mise en danger de leurs propres civils?
Mais donc, ça veut dire quand même que pour Benjamin Netanyahou, et parce que à l'instant l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'aller. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, monsieur le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise ?
En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé. C'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme, ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, qui ont des, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation et qui ont compris qu'en plus on était faible. Donc ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël ? Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort. Pas que chez LFI, pas que dans le RN. On a un sondage qui vient de sortir, qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Donc, ils attaquent par là où on est le plus faible, parce qu'ils se disent, comme ils sont un petit peu antisémites, ils ne défendront pas Israël. Mais derrière, ce qui est en ligne de mire, c'est la démocratie, c'est les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de liberté. Et on est en train de laisser passer tout ça.
Céline Pina, crédité hein, dans ce document du titre de essayiste. Elle est régulièrement là hein, sur CNews. Il y avait également dans ce document Eric Nolot et Laurence Ferrari.
Essayiste, c'est justement le terme qu'on emploie quand il n'y a pas de titre réel, puisque problème de fond, comme je le dis très souvent, comme je l'écris très souvent, c'est la crédibilité, puisqu'elle parle de crédibilité, Pina, on va parler de la sienne, qui est proche du néant. Elle est connue pour avoir cofondé le printemps républicain. Elle a estimé à un moment donné que le printemps républicain était trop à gauche, alors vous imaginez un peu où elle se situe. Et maintenant, elle vient sortir des horreurs, faire du révisionnisme. Sur les plateaux de télévision. Alors, les plateaux de télévision sur CNews, l'argument qu'elle prend est un argument absolument connu et reconnu, hein, puisque dès le départ, dès l'annonce de ce fameux mandat, d'arrêt, il y a eu plusieurs réactions, notamment celle évidemment de Benjamin Netanyahou, qui lui a parlé carrément d'antisémitisme. Alors évidemment, c'est l'extincteur du débat public, comme si la Cour pénale internationale pouvait être dans son entièreté antisémite. Ça n'a absolument aucun sens. Et il s'est même comparé à l'affaire Dreyfus, puisque il a fait allusion au fait que des juges, enfin notamment un juge français, pouvait avoir influencé, enfin bref, pour rappeler une affaire d'il y a 150 ans. Donc ils n'ont plus que cet argument-là. Et l'ultime argument qui commence à sortir, je pense notamment à des gens comme Veil Reynal, qui, une journaliste médicale, je crois, qui a dégainé, est l'une des premières à avoir dégainé, l'argument suprême d'un racisme consommé, à savoir que le juge Khan, est musulman. Et donc, par essence, puisqu'il est musulman, il est antisémite, sous-entendant évidemment que les musulmans sont tous antisémites. Donc, ils n'ont plus que cet argument-là à avancer. L'argument qu'avance Pina, et comme je le disais au départ de mon propos, pardon d'être un peu long, mais c'est de dire que ces instances, puisque ça ne nous convient pas, la décision ne nous convient pas, sont illégitimes. Alors au regard de quoi, je ne sais pas, puisque un très grand nombre de pays, sauf, alors il faut quand même le noter parce que c'est tout à fait étonnant, quoique, sauf l'Allemagne, qui elle a dit qu'elle n'arrêterait pas Netanyahou, avec une espèce de culpabilité comme ça à rebours.
Assez hallucinant.
Oui, mais sinon sur les 124 pays qui ont ratifié ces accords de Rome, l'écrasante majorité, voire la quasi-unanimité, à accepter, évidemment, et dont la France, les termes de cette décision judiciaire internationale.
Mais cet argument d'Israël, pays démocratique, donc on ne peut pas attaquer Benjamin Netanyahou qui a été élu, tout le week-end, hein, j'ai regardé énormément.
Oui, c'est vrai que j'avais oublié cet argument,
mais évidemment, et Ronnie Broman, qui est ancien président, je crois, de Médecins Sans Frontières, qui connaît.
Je crois même qu'il est cofondateur,
absolument.
Qui est un très très grand monsieur, qui est d'origine ou de culture juive, hein, il faut le préciser, parce que c'est très important par rapport aux propos qu'on va pouvoir entendre.
Ouais, il était invité sur France Télévisions, France TV Info, par Patrice Romden, notre collègue, on en avait déjà parlé ici. Écoutez ce que dit Ronnie Broman à Patrice Romden quand ce dernier amène le truc d'Israël, pays démocratique quand même.
Revenir un pays dont je pense qu'il est démocratique, et je pense que c'est à peu près admis, Israël, demandez, même si vous le contestez.
Demandez aux Palestiniens ce qu'ils en pensent. Demandez aux Palestiniens.
Et une organisation terroriste.
Pardon, excusez-moi. Demandez aux Palestiniens qui vivent sous juridiction israélienne ce qu'ils pensent de la démocratie israélienne.
Il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui pensent qu'elle est effectivement, qu'elle fonctionne.
Ah oui.
Arabes israéliens.
Oui, il y a 2 millions d'Arabes israéliens. Demandez-leur. Regardez comment ils s'expriment.
Il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Je dis pas qu'ils pensent tous comme ça, mais.
Non. Il y a 5 statuts de Palestiniens, 5 statuts juridiques de Palestiniens. Les Palestiniens de 48, disons que les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens réfugiés. Je laisse de côté les réfugiés, ça n'est pas directement sous juridiction israélienne, bien qu'ils soient à l'origine, quand même, du statut de réfugiés. Mais quatre statuts juridiques différents, dont deux qui sont à Gaza et en Cisjordanie, des statuts juridiques nuls, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucun droit, et qui vivent à côté de gens qui les envahissent et qui ont tous les droits. Si vous appelez ça une démocratie, alors moi je ne sais plus quelle valeur attacher au mot.
Il me semblait qu'il y avait des élections libres dans ce pays.
Il y a des élections libres, ça suffit pas pour déterminer qui est
en Afrique du Sud.
À ce moment-là, si, il y avait des élections qui étaient libres pour les Blancs en Afrique du Sud.
Pour les Blancs, que pour les Blancs.
Et il y avait aussi des députés noirs à l'Assemblée. Eh bien, l'Afrique du Sud n'était pas une démocratie, c'était un État raciste, comme l'est l'État israélien.
Ah ouais, parfait. Il fallait absolument qu'il y ait ce type de réponse, voilà, à cet argument de démocratie. Même nous ici, même moi ici, je disais, mais évidemment, et pendant longtemps, Israël, où il y a des élections, il y a eu des alternances, mais la façon de se comporter de Netanyahou est-elle une façon démocratique de se comporter, enfin voilà.
Non, mais de toute façon, ce qui a fondamentalement changé, enfin en Allemagne aussi, il y avait des élections.
Évidemment.
C'est ce qui est fondamental depuis la semaine dernière, ce qui a changé, c'est que le droit international nous autorise à dire que Netanyahou est un criminel de guerre, un criminel contre l'humanité, et que l'armée israélienne est une armée terroriste. Voilà, point. C'est pas moi qui le dis, c'est le droit international. C'est ça qui a changé. On peut pas s'en réjouir parce que la situation ne prête pas aux réjouissances de ce qui se passe évidemment à Gaza et au sud Liban. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un avis. On peut dire que oui, comme on pouvait dire juste avant que Netanyahou c'était un Hitler sans prépuce, puisque la justice a donné raison à Guillaume Meurice. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir, de connaître la position de France Inter là-dessus, puisque le droit international lui donne raison. C'est quand même assez extraordinaire. C'est peut-être dû au passage dans l'émission L'œil de Moumou, je ne sais pas. Je ne connais pas l'influence de cette chronique, mais plus sérieusement, voilà, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur, je le répète, pardon, mais on n'est plus sur un avis, sur un point de vue. On est sur une réalité juridique, une réalité judiciaire validée par l'une des plus hautes instances judiciaires mondiales. Donc, point. Voilà. Maintenant, quand on ergote comme ils le font, quand on va se balader, comme l'a fait Rachel Kahn, on a vu passer des photos avec
Elle était en Israël, ça.
Oui, c'est ça.
Là, j'ai vu passer des photos.
Un suite de l'armée génocidaire israélienne, ben on devient complice. Et quand on critique comme ils le font sur les plateaux de télé, ça s'appelle du révisionnisme ou du négationnisme de crimes de guerre, je le répète, et de crimes contre l'humanité.
Rachel Kahn, faut rappeler aux auditeurs et auditrices qui connaissent pas, c'est une de ces toutologues, on les appelle.
Oui, essayiste aussi. Qu'on retrouve sur les chaînes d'extrême droite. En grande partie, et puis qui vient raconter tout et n'importe quoi sans aucune espèce de contradiction, et surtout sans compétence, sans qualité et sans background qui permette de dire oui, elle s'y connaît sur ce dossier-là. Moi, il m'arrive très régulièrement, que ce soit à l'antenne ou sur cette radio, de dire je ne sais pas. Quand il y a un dossier que je ne maîtrise pas, je ne m'aventure pas. Eux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont capables, comme tu dis, de faire de la tautologie 3XXL à tout raconter. À raconter tout et n'importe quoi sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et donc ça donne des âneries, voire des mensonges. Hein. On a débunké un certain nombre de mensonges. Par exemple, elle expliquait que le taxi qui l'avait amené, alors évidemment on devine que c'est un maghrébin et a fortiori un musulman, qu'il y avait des sourates appelant à la destruction d'Israël. Je rappelle que les sourates, ça provient du Coran, et qu'a priori, le Coran est né un tout petit peu avant Israël, qui, je le rappelle, a été fondé en 1948. Donc ça n'a absolument aucun sens, mais ça passe crème. Elle n'est pas reprise sur le plateau, on est obligé de la reprendre nous. On est obligé de les reprendre, puisqu'en fait, c'est un travail collectif de désinformation pour expliquer aux gens en quoi, et c'est le principe hein, de ce dont on parle ici de manière assez régulière et de ma chronique sur le Média TV, c'est de faire de la critique et d'expliquer en quoi le paysage audiovisuel français, notamment la télévision et aussi la radio et la presse écrite parfois, sont complètement à la dérive et sans contrôle depuis plusieurs années.
Tu parlais de l'œil de Moumou sur le média, puisque tu en parles, je voudrais faire découvrir aux auditeurs et auditrices de Radio Campus et d'Abattons Rompus ce jeune homme que tu as reçu la semaine dernière, je crois.
T'as entendu parler des mecs de la BAC qui ont encore contrôlé de façon bien tordue des jeunes propals le soir du match de la honte France-Israël ? Homophobie, menaces, agressions sexuelles, c'est Street Press qui nous raconte tout ça dans un article. Y a un des mecs, ils ont ressorti son dossier complet et ils ont pris plaisir à l'humilier parce qu'il avait été harcelé quand il était plus jeune. Ah, il lui disait que eux aussi, ils l'auraient harcelé à l'époque. Ouais, mais t'inquiète, on s'en doute. Ils ont été tellement abusifs avec lui qu'ils parlent de torture psychologique, quand même. À un moment, il en était même à se demander s'il allait rentrer chez lui ce soir. Alors, je te fais pas tout le détailler, allant du palpage de burne insistant aux insultes homophobes répétées, en passant par les phrases du genre « Si on n'était pas en uniforme, vous seriez déjà mort ». Mais il y en a un dans le lot, il se revendiquait carrément fasciste, en leur expliquant que lui, sa devise, c'était « Travail, famille, patrie ». Ce qui est qu'à moitié étonnant quand on sait que la police nationale a justement été créée sous Vichy.
Il s'appelle Ashton, il est sur toutes les... Ah, il est sur YouTube, il est également sur X, le réseau. Et tu l'as reçu dans l'œil de Moumou pour parler de lui.
Oui, alors je l'avais découvert il y a quelques mois. J'avais déjà projeté il y a quelques mois encore l'une de ses vidéos.
Oui, tout à fait.
Je l'avais mis dans mes coups de cœur. Et là, je sens qu'il y a une espèce de progression depuis quelques temps. Ça monte. Il est salué par un certain nombre d'humoristes, notamment. Oui. Alors, je pense à Walidia.
Tout à fait.
Qui est entré en contact avec lui. Je pense à Bruno Gaccio, qui l'a félicité sur les réseaux sociaux. Donc là, il est en train de prendre son envol. Je suis certain, absolument certain, qu'il a un avenir brillant dans ce domaine-ci, parce que ce n'est pas son travail. Hein.
Non,
il fait ça. En gros, il se lève le matin, il est un peu vénère par l'actualité. Donc il va scroller un peu, il va regarder un peu, écouter un peu les infos. Et il va prendre une affaire comme celle-ci, là, celle du Stade de France. Il va prendre une affaire et puis il va se mettre face caméra dans son placard. Alors, vous verrez, c'est assez drôle à aller
ouais,
voir.
Ouais, c'est drôle, ouais.
Il va se mettre dans son placard, face caméra, et il va dégainer. Et c'est toujours drôle, ça ressemble à du Michel Audiard. Je trouve ça vraiment, vraiment très impressionnant. Je serais absolument incapable de faire ça. Donc voilà, il était venu. Bah, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Média. Vous pouvez retrouver l'épisode, l'opus durant lequel il a eu la gentillesse de venir parce qu'il habite assez loin. Mais donc, il a de suite accepté et il est venu. Voilà, succédant à Guillaume Meurice. Et donc, je le remercie. Je lui souhaite vraiment, vraiment un succès tout à fait mérité.
Le prochain enregistrement, c'est là, en ce moment, où on diffuse cette émission. Tu as déjà quelques pistes à nous dire pour l'œil de Moumou cette semaine.
Ah, il y aura donc énormément. C'est mercredi à 20h. Il y a beaucoup de matière. Il y a évidemment cette affaire de la CPI. Et puis, j'aurai un invité prestigieux qui est le directeur d'un institut de recherche spécialiste de géopolitique, spécialiste des questions du Moyen-Orient, qui est, je vais vous dire son nom quand même, Pascal Boniface.
Ah, voilà, très bien.
On va pouvoir disséquer ensemble toutes ces réactions à la décision de la CPI, notamment.
Merci à toi, Mourad, de ta présence dans Abattant Rompu, tous les mardis à 19h. À très vite.
Merci à vous.
Et Ashton, il faut aller voir sur les réseaux sociaux, H-Ton et un accent circonflexe sur le haut. Il a plein de vidéos comme ça qui sont frappées au coin du bon sens. Et il fait également...
Oh, jolie expression.
J'ai les codes, monsieur. Je suis en France depuis longtemps, donc tu vois, j'ai les codes.
Oh, je
peux discuter avec ta grand-mère. Mais...
Elle est morte.
Allez, deux, trois choses à dire sur le document avec Mourad. Ce qu'a fait Yval Fay, la plainte, ça s'appelle une procédure Bayon. Et c'est une action contre laquelle les journalistes luttent en ce moment où on voit que des gens pas très sympas arrivent au pouvoir un peu partout. C'est l'instrumentalisation de la justice, là. Dès qu'on sait qu'un journaliste va sortir un truc, on va là-bas. Comme ça, on le fait taire. Ça a marché. Parfois, on essaie de lutter contre ça. Il existe une directive européenne récente pour lutter contre ce type d'action. Et c'est tant mieux. C'est un peu tard pour certains, mais c'était en 2024. Un peu de musique. Et Thomas, on vient à toi. Musique avec un hommage.
Les Bayrou.
Ah oui. À Beyrouth. Beyrouth. Capitale du Liban, ville martyrisée, bombardée par les armées d'un certain Wanted Netanyahou. Encore des morts cet après-midi. Je crois qu'ils ont tiré sur des bâtiments avec des enfants dedans. C'est salopard. Ce morceau, c'est Fayrouz. 1984, je crois. Et cette chanson est trop belle. Elle parle de cette belle ville. On l'écoute. Rose, une des plus grandes voix, sinon la plus grande, de la chanson de la musique moyenne-orientale. Et la grande dame a eu 90 ans, elle est toujours vivante. Elle a eu 90 ans jeudi dernier, il me semble. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis de 19h à 20h.
Voilà, j'ai fait un mix de...
C'était une transition un peu douteuse, monsieur le DJ.
J'ai fait un mix de merde, effectivement. Je le reconnais un peu, pardon. Surtout si vous aviez un casque. On va parler maintenant de cette actualité, Thomas, locale. Ce matin, on a... Oui, tu as reçu un coup de fil à la radio disant qu'un collectif d'habitants du quartier des Blossières qui se bat contre la fermeture de la poste dans le quartier avait... occuper une autre poste, pas compris.
C'est ça, oui. Ça chauffait ce matin au bureau, enfin ça chauffait toute raison gardée, au bureau de poste du quartier Dunois.
Oui, c'est un autre quartier. Oui,
ouais, c'est le quartier un petit peu voisin, un peu plus au sud en fait du quartier des Blossières. Une quinzaine de manifestants, dont Mathieu Gallois, le maire de Saran, se sont retrouvés à l'intérieur du bâtiment ce matin pour exprimer leur ras-le-bol. Alors des manifestants armés de banderoles et... d'un registre de pétitions, des armes terribles qui ont nécessité la fermeture du bureau face à tant de violences.
Ça a été fermé.
Oui, ça a été fermé quand même. Alors,
parce qu'il y avait un groupe de...
Ouais, je ne résiste. Oh, bah, ils étaient une quinzaine en fait, une quinzaine d'habitants. Hein, tu sais, comme toi, comme moi, enfin plus âgé que moi.
J'espère. Ah ouais. Bien joué, Callaghan. Si tu m'entends à la mairie là-bas.
Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous faire suivre les éléments de langage de la poste que nous avons contacté à ce propos. Je cite concernant l'occupation du bureau de poste de Dunois ce matin, la Poste a pris la décision de faire évacuer ce bureau de poste afin de garantir la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. L'intervention d'un huissier a permis de constater l'occupation du bureau de poste. Le bureau devrait rouvrir normalement demain. Fin de citation. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'étais pas sur place, donc je me garderais bien de juger. J'ai pas fait un reportage sur place, mais il me semblait pas que ces énergumènes étaient particulièrement violents. Et je rappelle encore une fois qu'il y avait quand même la présence d'un maire tout à fait respectable, du nom de Mathieu Gallois,
le maire de Saran, une ville de l'agglo orléanaise.
Exactement. Donc d'accord. Je pense que ça devait être à peu près bien tenu quand même. Hein, oui. Voilà. Alors l'objet de la colère de ses habitants est relaté depuis des mois, la fermeture du bureau de poste des Blossières, qui est intervenu donc dès cette semaine, alors qu'elle était prévue le 30 novembre, selon ces manifestants. Shaïn Caragoz, secrétaire de la section du Parti communiste d'Orléans, faisait partie de ce groupe et il nous indique que l'objectif était, je cite, de montrer aux usagers les conséquences de la fermeture du bureau de poste des Blossières et de faire signer la pétition sans entraver le fonctionnement du service. Fin de citation. Alors pourquoi ces personnes membres du collectif de défense du bureau de poste des Blossières ont-ils choisi Dunois pour protester? Eh bien tout simplement car les colis des Blossières ont déjà apparemment été transférés au bureau de poste de Dunois. D'accord. Les deux quartiers quartier étant, je vous l'expliquais tout à l'heure, voisin séparé par un peu plus de 5-6 minutes en voiture.
Bien sûr. Voilà.
La menace de la fermeture du bureau de Dunois ne date pas d'hier. L'épée de Damoclès était déjà en position depuis quelques années et le mouvement semble s'être accéléré depuis la rentrée. Il y a eu plusieurs papiers qui sont sortis notamment chez nos confrères de la République du Centre. On a pu en retrouver également chez France Bleu Orléans. Dans un contexte en fait où l'État a décidé de réduire de 50 millions d'euros le budget alloué à la présence postale à travers la France. Alors 50 millions d'euros, pour vous donner une idée, ça représente un tiers de ce budget. Ouais. C'est quand même considérable. Il y avait déjà ce mouvement effectivement de disparition de ces services de public de proximité, notamment en ruralité, mais on le voit s'accélérer et je pense que avec le plan de loi de finances et les économies annoncées, ça va pas s'arranger au fil du temps. Alors face à ce désarroi, donc 5 manifestants sur la quinzaine sont restés dans le bureau de poste alors qu'il avait été fermé. Ils étaient bien sûr autorisés à sortir, mais ils ne l'ont pas fait, exigeant de rencontrer la direction de la poste. Après négociation, ils ont obtenu un rendez-vous avec la direction dans l'après-midi à la préfecture. Et la poste a annoncé plusieurs mesures sur le quartier des Blossières à la suite de cette entrevue. Je les cite. Un projet ambitieux visant à maintenir et à renforcer la présence de services publics essentiels aux résidents du quartier des Blossières verra le jour dans le courant du premier semestre 2025. Cette nouvelle offre de proximité sera structurée autour de trois dispositifs. Un point de service La Poste, agence communale tenue par un postier, une France Service et une place des services. Cette dernière, donc la place des services, proposera un bouquet de services additionnels travaillés actuellement en co-construction avec les habitants et futurs usagers du quartier. Deux ateliers ont déjà été organisés avec des commerçants ainsi que des seniors et des actifs volontaires et un troisième est prévu prochainement avec une cible de jeunes adultes. Fin de citation, tout ça c'est ce que la Poste nous a répondu. Alors est-ce que ça rassurera pour autant les habitants des Blossières? Est-ce que ce sera suffisant aussi pour compenser la fermeture d'un bureau de poste de quartier? Je vous rappelle quand même, sur le point de vue de la Poste, c'est un point de service La Poste, agence communale tenue par un postier seulement. Donc est-ce que ça suffira à compenser le manque à gagner? Eh bien, je l'ignore.
La réponse est non. Enfin, passons à autre chose.
On va creuser en tout cas. Oui. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on va creuser au cours des prochains jours et semaines dans la Rédac Pop avec Victor. On a tenté de contacter Mathieu Gallois, mais je n'ai pas eu de réponse ce soir, malheureusement.
Je pense. J'espère que si vous écoutez l'émission que vous connaissez, Mathieu, dites-lui que qu'il vienne à Radio Campus nous en parler parce que ça nous intéresse. Et il y a pas mal d'étudiants que je connais en tout cas qui habitent le quartier des Blossières. Voilà, aussi. Merci. On regardera ça sur la Rédac Pop, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Bah, on va creuser ça notamment avec Victor. On va prendre le temps, de voir un peu comment la situation évolue et surtout comment ça se passe pour les habitants.
Rédac Pop et Radio Campus et Abattons Rompus.
Oui, la Rédac Pop.org.
Évidemment, pour l'instant, je vous remets dans l'ordre ce jingle.
Abattons Rompus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Magique. Nous allons aller au cinéma maintenant. Je fais quoi? Je lance le
tapis musical,
le générique ou pas? Ou pas?
Tu veux mettre la bande annonce tout de suite?
Mais oui, pour qu'on sache.
Allez, allons-y.
Parce que ça présente l'actrice principale. Écoutez ça.
Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Une rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses?
Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois avec le SMIC.
Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches.
C'est pas un gros croque-monsieur, c'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport.
Compte second.
Les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté.
Frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter. Si tu ne me connais pas.
J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie.
2890 pour la veste, ça va.
Ah là, je suis tellement bien ici.
C'est bien ou pas?
Non, c'est pas bien.
Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion.
Bah si on n'a pas ça, on n'a rien, non, pas ici.
Bonjour Colette.
Ça te paye combien?
1000 euros. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres.
On a aussi la vie qu'on décide d'avoir.
C'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Le système Parcoursup et Mathieu.
Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire.
Pourquoi aussi? Pour eux, ils sont plus rien et c'est plus qu'un numéro.
En 2012, j'ai été licenciée à cause économiquement. Mais fallait que je bouge, fallait que je travaille, j'ai toujours travaillé.
Après, on a les rêves qui commencent à revenir.
Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie ?
Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé ?
On s'en fiche.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens.
Au boulot, dernier documentaire de François Ruffin et Gilles Perret, Asma.
Oui, sorti depuis le 6 novembre dernier. Donc, dernier documentaire de François Ruffin et Gilles Perret. Je dois dire, moi, que j'ai beaucoup aimé, pour plusieurs raisons. J'ai trouvé que c'était un documentaire touchant.
Attends, je sors du studio.
Tu sors du studio.
Vas-y, finis.
On va discuter.
T'as une fenêtre derrière toi, tu peux.
On va discuter. Okay,
allons-y. Ouais.
On peut discuter. J'ai trouvé que c'était un documentaire touchant, réaliste, rythmé. On s'ennuie pas. On voit pas l'heure et demie passer. Et surtout, en fait, c'est très drôle. Et je pense que François Ruffin, il l'a dit, il a pris ce pari de faire quelque chose de peut-être gravement léger ou de légèrement grave. Sur un sujet grave. François Ruffin, il est très drôle dans ce documentaire. Donc il a invité cette chroniqueuse TV qu'on entend, Sarah Salman, qui est aussi avocate. Il l'a invitée à se prêter au jeu, si on peut appeler ça un jeu, à se fondre dans le monde du travail, le vrai monde du travail, le travail dur au sens de le travail. Je crois que l'étymologie du mot, c'est proche du mot torture.
Tripalium.
Voilà, exactement. Travail physique, ce qu'on appelle parfois les sales boulots. La France d'en bas. On peut s'interroger sur cette représentation qu'on a sur ces images. Il a invité donc Sarah Salman, cette sulfureuse grande gueule qui intervient régulièrement sur CNews, Touche pas mon poste, les grandes gueules d'RMC.
Ah, elle fait aussi.
On la voit souvent, oui, on la voit souvent sur TPMP.
Bah, je ne savais pas tout ça. Bon.
Elle est sur tous les fronts. Bah, faut croire qu'elle fait de l'audience, j'imagine.
C'est un label de non-qualité.
Voilà. Elle est connue donc pour taper sur les travailleurs, les chômeurs, les feignasses, comme on l'a entendu, qui se mettent en arrêt pour une angine, les chômeurs incapables de trouver un travail, les assistés, etc. etc.
Pas très, des chats, en fait.
Pas très original, d'ailleurs. Hein, c'est pas très créatif. Et François Ruffin, il lui lance un défi sur le plateau d'RMC. Il lui propose de faire l'expérience de vivre avec un SMIC pendant quelques mois. Et elle lui répond « Ok, mais alors pas plus d'une semaine ». Alors bon, c'est un peu drôle et tout le documentaire prend vraiment ce ton humoristique et ça marche, on rit du début à la fin. Mais vraiment on rit, mais faut accepter de rire en fait. Faut accepter, c'est une posture qui est peut-être pas, qui est difficile à prendre, mais on se laisse cueillir par le documentaire. Et elle se prête au jeu, elle va passer quelques jours à faire livreuse de colis, on l'entend, elle a des talons, elle arrive en talons avec tout un tas de bijoux, de tout dans son monde, quoi. Elle travaille dans une usine à poissons, aux côtés d'une auxiliaire de vie. Elle fait serveuse dans un restaurant. Et entre deux, de temps en temps, c'est assez marrant, elle s'amuse d'aller prendre un petit déjeuner avec François Ruffin dans un vrai PMU. Un vrai PMU. Elle est devant le PMU. Elle prend une photo. Elle trouve ça incroyable. Oh, c'est un vrai PMU. Elle va gratter des trucs.
Elle pleure presque, non ?
Ben, ça l'amuse, quoi. Presque, elle est presque au zoo.
Regarde-moi ça.
Elle peut pas finir le muffin tellement elle le trouve dégueulasse. Et c'est très drôle. C'est François Ruffin qui le prend en deux crocs, qui le termine, quoi. Mais vraiment en deux crocs, le coude sur la table, le cliché. Ouais. Et c'est marrant tout le long parce qu'il y a un petit rapport un peu éducatif entre les deux. Il y a un peu le côté papa, le grand frère un peu sympa qui va lui apprendre la vraie vie, quoi.
Mais ça, mais elle reste un prétexte, quoi. Elle doit être caricaturale du début à la fin.
Oui, voilà.
À quoi ça servait à Ruffin de
C'est
ça,
surtout, là. Voilà, Sarah Salman, c'est quand même le prétexte, il le dit à la fin, parce qu'à la fin, ils ont terminé le documentaire en mauvais termes, il le dit. Il dit, bon, elle est pas là pour finir le documentaire, ils ont eu un petit conflit
sur Gaza,
sur les positions géopolitiques sur Gaza. Elle a refusé de manifester de l'empathie, on va dire, pour les victimes du côté de Gaza.
Elle
affiche totalement.
Pour Israël,
exactement.
Ça que c'était tourné, ouais.
Elle est très, très tranchée là-dessus, voilà. Et à la fin, il le dit. Il dit de toute façon, Sarah Salman, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. J'ai pas envie de spoiler la fin, mais la fin du film est vraiment géniale. Est vraiment géniale. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Bref, c'est le sujet. Effectivement, c'est Sarah Salman, c'est le prétexte. Hein, c'est pas le sujet du film. Elle est caricaturale, elle est clichée. C'est la grande bourgeoise qui meuble sa vie en s'achetant des meubles à 20 000 euros. À un moment, dans la bande-annonce, on dit on l'entend dire je me sens chez moi. Donc là, elle est dans un espèce de gala. On sait pas ce qu'ils font. Mais un truc à la Fashion Week, soirée, cocktail, des gens botoxés, enfin vraiment un spectacle un peu cliché. Elle joue un peu la cruche, hein, elle reconnaît pas un navet.
T'es sûr qu'elle joue
on cherche une nuance. Moi je me suis demandé, c'est pas possible.
D'être comme ça.
Je me suis dit, il doit y avoir une nuance à chercher à complexifier ce personnage qui est Sarah Salman quand même.
Mais je vais pas m'avancer, puis je la connais pas, mais je ne crois pas quoi. Je ne crois pas qu'elle ait des nuances. Tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux sur elle, elle a pas de nuances, c'est pas possible. Elle est détendue, mais vraiment détendue quoi.
Moi, ce que je me suis demandé, c'est que c'est une avocate quand même.
Oui, mais
je te regarde, Steven. Toi qui as fait des études de droit.
Rien à voir.
C'est ça que je me suis demandé. Tout le film, j'ai pensé, mais au final, ce film. Je reprends un peu le film de le On s'égare, mais j'essaie de reprendre le film de mon papier. Ce qui est réussi, ce qui n'est pas cliché, ce qui n'est pas voyeur, c'est pas une caricature victimaire, qui montre des travailleurs qui râlent, qui se plaignent. Parce qu'il y a Sarah Salma, mais il y a aussi quand même ceux qui sont filmés, c'est les gens qui travaillent dans les usines. Et c'est pas du tout caricatural, c'est pas du tout voyeur. C'est pas des gens qui racontent leur misère. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est des gens qui racontent concrètement comment le travail, avec beaucoup de dignité, beaucoup de sens concret en fait, ils nous montrent pas leur propre comptabilité, ils montrent comment le monde du travail les malmène et comment 1 300 € par mois, même quand ils sont censés déjà être à la retraite et qu'ils reviennent dans le monde du travail, ça leur suffit pas en fait. Et beaucoup ont la santé éclatée, à même pas 40 ans. Pas 40 ans. Il y a un travailleur qui dit, avec un peu d'humour, il dit « je suis Robocop » tellement il a des prothèses de partout, quoi. Et le film, c'est un film qui montre beaucoup d'entraide, de solidarité, de compassion. Et ça, c'est très réussi. Moi, je me suis dit, finalement, François Ruffin et Gilles Perret. Et Gilles Perret, d'ailleurs, il n'était pas partant pour faire ce projet. Il a dit « moi, Sarah Salman, je ne vais pas la supporter tout le tournage ». Donc c'est vraiment François Ruffin qui a été le moteur du projet. Et finalement, il a montré une voie, mais c'est là où elle est le prétexte, parce qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré une influence médiatique.
Ben oui, on l'entend. On la voit à la télé.
Voilà,
on l'entend, oui.
Une avocate qui est censée donc faire des études. En France, on n'achète pas un diplôme, mais elle a.
Indirectement.
Je suis naïve, peut-être.
Le concours pour être avocat, c'est quand même un des concours les plus difficiles qu'on puisse avoir en France. Mais après,
les conditions pour passer le concours sont différentes selon le milieu social.
Ah oui, bien évidemment. Ah,
voilà. C'est ça en fait qui fait que tu achètes quelque part ton diplôme. Quoi. C'est ta différence de capital
culturel,
social, économique. Social, ouais.
On continue, on est un peu en retard.
Donc elle passe son temps à lister des nouvelles pièces de luxe. Et d'ailleurs, François Ruffin lui dit, je trouve que c'est triste. Je peux pas m'empêcher de penser que si tu regardes des vestes à 20 000 € avec autant de lumière dans les yeux, c'est parce que ta vie est triste. Et elle dit qu'elle se sent appartenir à la classe moyenne. Elle le dit. Elle dit « Pour moi, je suis de la classe moyenne. » Dans son milieu. Elle ne sait pas reconnaître un AV, elle fait livreuse en talons aiguilles. Bref, on ne va pas lui tirer un portrait plus cliché qu'elle ne le fait déjà elle-même. Parce qu'au moins, elle a eu le mérite d'accepter de se prêter au film. Peut-être par naïveté, d'ailleurs. Et parfois, c'est le moment de la nuance du film. Parfois, elle est émue. Elle est émue face à cette auxiliaire de vie, Louisa. Qui dit avec beaucoup d'émotion qu'elle a le sentiment, elle, de faire le plus beau métier du monde. Elle gagne pas beaucoup d'argent, mais elle a le sentiment, de se sentir utile. Elle travaille pour l'humain, quoi, tout simplement. Et François Ruffin, il a donné à voir qui sont ces gens qui parlent à la télé. Qu'est-ce qu'on sait d'eux ? D'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? D'où ils partent pour donner un avis ? Est-ce qu'ils sont légitimes à avoir un avis ? D'où ils parlent, comme disait... je crois que c'était une citation marxiste. Oui. D'où tu parles ?
Oui, bien sûr, c'est très important.
D'où on parle ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'éducation ? Qu'est-ce que c'est que la culture ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Qu'est-ce que c'est que les classes sociales maintenant aujourd'hui ? C'est peut-être le reflet de la crise politique, c'est que les classes sociales, on peut plus se réunir autour d'un même réel, en fait. Il n'y a plus aucun pont. Et c'est un documentaire qui a tenté de faire rencontrer deux France qui ne parlent plus la même langue. Donc pour moi, Sarah Salman, c'est le cliché à se pencher sur cette dialectique impossible. Qu'est-ce que c'est maintenant que ce réel qu'on ne peut plus comprendre du même angle, en fait. On dirait qu'on n'a plus le même alphabet, quoi. Il y a une crise, pour moi, des représentations sociales, politiques, culturelles à tous les niveaux, quoi. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très réussi parce que c'est un film, c'est très drôle. Franchement, les gens riaient beaucoup dans le cinéma. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tendre et c'est un film qui donne envie d'aimer les gens, moi, j'ai trouvé.
tu l'as bien vendu en tout cas, mais sache-le dès maintenant, je n'irai pas voir ce film documentaire.
Moi, ça m'évoque une phrase qui dit « Si le travail était une bonne chose, les riches le garderaient pour eux ».
Bien sûr, ils le cacheraient profondément, mais c'est absolument. Allez, on continue très vite parce qu'on est très en retard.
Abattant rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Et Radio Campus Tours, on va finir cette émission avec la culture. Tu parlais des cultures à ce moment, mais quelle culture? La vraie, la belle?
Celle de la source.
Celle de la source, d'Orléans-la-Source. Tu as rencontré Thierry Falvissaner qui lance son festival en Enracinement, Déracinement.
C'est ça. Tu veux commencer par Thierry?
Bien sûr, on peut commencer par Thierry. Dis-moi ce que tu veux faire.
On va commencer par Thierry, on finira par Malik.
Bien sûr.
Alors oui, donc... pour cette 8e édition, on a donc le festival Enracinement, Déracinement qui revient pour une nouvelle édition 2024. Donc un festival organisé par la compagnie du Théâtre Charbon. Et puis bah, je vais laisser Thierry en fait, le présenter.
Absolument, ce festival un peu d'âge, je crois, c'est 8 ans. Et il répond là-dessus Thierry Falvissaner.
Le festival, c'est une initiative qu'on a prise en 2016. On a lancé le premier festival Enracinement, Déracinement en 2016, suite à l'installation de la compagnie, plus précisément sur le quartier d'Orléans-la-Source, avec un projet qui était un projet de décloisonner la culture dans un territoire populaire. Essayer de faire en sorte que des habitants du quartier puissent entrer au Théâtre Gérard Philippe notamment et puissent accéder à des propositions qu'on voulait leur adresser, des propositions de qualité, exigeantes, mais aussi populaires. Voilà, c'était ça le point de départ. Et puis le deuxième point, c'était aussi d'essayer de faire se croiser à la source les deux composantes du quartier de la source, enfin il y en a presque trois, c'est-à-dire la partie populaire du quartier, celle qui est inscrite dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires politiques de la ville, et la partie, on va dire, plus résidentielle du quartier, faire en sorte que les gens qui habitent le quartier de la source se retrouvent au même moment ensemble, notamment par le prisme de propositions culturelles. Et enfin, évidemment, de pouvoir aussi faire adjoindre la troisième partie de la source, je dirais, qui est plutôt la partie universitaire étudiante, qui a du mal aussi à croiser la partie populaire, même si pour bon nombre des étudiants, ils sont plutôt ici de milieu populaire, et la partie résidentielle. Voilà, c'était ça l'objectif au départ, c'était de trouver un moment qui fédère tous ces publics et qu'on puisse les réunir ensemble pour partager des moments conviviaux et puis d'intelligence à partir aussi de propositions culturelles.
Et là, ce moment, il débute donc le 26 novembre et il se termine le 6 décembre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation pour cette année ?
Oui, alors donc la programmation, elle s'est appuyée au départ sur une proposition qui était celle d'un spectacle autour des Sœurs Mirabal. Donc les Sœurs Mirabal, pour revenir sur ce sujet, donc en partenariat avec l'Université d'Orléans cette année, avec la chaire République Dominicaine Sœurs Mirabal portée par Madame Pelage. Donc j'ai rencontré Madame Pelage avant l'été et puis elle m'a parlé de ce qu'elle faisait autour des Sœurs Mirabal. Je ne connaissais pas les Sœurs Mirabal avant qu'elle m'en parle. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une résonance qui était extrêmement importante, évidemment, avec le projet de la compagnie. Donc les Sœurs Mirabal, pour revenir sur ce point-là, ce sont les Sœurs Dominicaines, trois sœurs plus les parents, qui ont été tuées par le dictateur Trujillo en 1960, le 25 novembre 1960. Et c'est pour ça que le 25 novembre est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui a été choisie par l'ONU pour rendre hommage aux Sœurs Mirabal. Et donc comme il y a cette chaire République Dominicaine qui est ouverte à Orléans, avec un focus qui est fait autour des Sœurs Mirabal et aussi de toutes les questions des violences dont sont victimes les femmes. Nous avons choisi de programmer le spectacle Battre encore, qui est un spectacle visuel avec des marionnettes géantes et qui revient sur l'histoire des Sœurs Mirabal en République Dominicaine. Avec des jeunes qui vont venir voir le spectacle l'après-midi, qui viennent de tout le département, de Gien, de Sully, des étudiants de l'université aussi qui sont en lien avec Madame Pelage. Et donc on fait un focus vraiment autour de ce sujet-là. Donc il y a une représentation l'après-midi du 20 du 28 novembre et une représentation le soir le 28 novembre. Ça commence le 26 novembre parce qu'on commence aussi par la possibilité de voir un travail d'un photographe qui s'appelle Manar, qui est américano-syrien, qui a travaillé autour des MNA et qui a des photos autour de plusieurs projets qu'il a fait avec les MNA. Donc ces photos seront visibles tout le long du festival à partir du mardi 26 novembre jusqu'au 6 décembre. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça commence le 26 novembre. La partie spectacle vivant commence le 28 novembre.
Pour précision, MNA, mineur non accompagné. Et pour la suite, on a aussi une grosse journée le samedi 30. Hein.
Oui, le samedi 30. Alors, on a un spectacle qui aura été proposé aussi le vendredi 27, qui s'appelle l'exercice du super-héros. Alors, c'est un spectacle qui me sert aussi d'appui pour un projet autour de la charte de la laïcité à l'école. C'est-à-dire que des classes de CM2, de 6e de la métropole d'Orléans vont venir voir le spectacle. Et ensuite, on va travailler avec eux durant toute l'année autour de la charte de la laïcité à l'école afin qu'ils fassent une proposition d'un pas de côté artistique pour illustrer un des articles de cette charte de laïcité. Donc on fait un travail aussi avec l'État et la préfecture sur ce sujet-là pour que des jeunes puissent rencontrer des représentants de l'État. Normalement, le sous-préfet va rencontrer les jeunes pour discuter avec eux des questions de laïcité. Voilà, je crois que c'est un sujet, nous aussi, qui est important. C'est-à-dire que au cœur d'un quartier, on est vraiment bousculé aussi sur ces sujets. Il y a parfois de l'incompréhension autour de ce qu'est la laïcité. Évidemment, on ne va pas revenir sur l'assassinat de Samuel Paty, mais c'est vrai que c'est des sujets dont il faut qu'on s'empare pour comprendre la laïcité, non pas en parler de manière caricaturale. Et donc, voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser le médium artistique pour échanger autour de ces thématiques qui sont des thématiques qui nous sont communes. C'est-à-dire que la laïcité, c'est quand même notre manière de bien vivre ensemble et de mieux vivre ensemble normalement et non pas quelque chose qui devrait nous séparer. Donc on a ce spectacle qui est l'exercice du super-héros qui sera diffusé le samedi aussi, le samedi 28 novembre, en tout public. Et on fait une après-midi spéciale au théâtre. On propose donc l'exercice du super-héros, ensuite un film qui s'appelle Vital qui revient sur de manière... comment dire, non documentaire, voilà, c'est un film de fiction autour de l'expérience que peuvent vivre les jeunes mineurs non accompagnés, ceux qui traversent la Méditerranée pour arriver jusqu'en Europe, un film qui a été fait par des Tourangeaux. Ensuite, on a trois slameurs, slameuses qui seront là, c'est-à-dire Léa Servo, Al Pacina et Sadou Mané, qui nous proposeront une heure de slam, où je leur ai demandé de se rencontrer, d'imaginer ensemble des moments slamés, et puis aussi de pouvoir proposer d'entendre des jeunes mineurs non accompagnés qui ont travaillé durant l'année 2024 avec Al Pacina, donc autour d'écriture slam en partenariat donc avec le ministère de la Culture. Donc je remercie Vanessa Ndoye à ce sujet-là et le département du Loiret qui ont partagé avec nous ce travail-là avec des jeunes mineurs non accompagnés qui pendant plusieurs mois ont écrit des textes et pour certains reviendront la semaine prochaine pour partager leur écriture avec un public. Et enfin, à l'issue de ce moment-là partagé donc avec les artistes, les slameurs, le réalisateur, les comédiens et des jeunes MNA, l'idée c'est de pouvoir échanger avec Radio Campus et Hassan Kerim, avec le public pour discuter de ce que peuvent vivre aujourd'hui les MNA et puis de faire un focus sur eux et échanger avec le public autour de comment on peut par les médiums artistiques aussi pouvoir alerter, au moins témoigner de ce que peuvent vivre ces jeunes gens. Je dis jeunes gens parce que c'est essentiellement des jeunes garçons qui sont mineurs non accompagnés et comment voilà, on peut aussi sortir des postures caricaturales autour de ce que sont ces jeunes gens.
C'est un sujet qui tient à cœur parce que l'an dernier aussi il y avait eu tout un travail autour des mineurs non accompagnés.
Oui, le fait d'être, le festival s'appelle Enracinement, Déracinement, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que à la source c'est un quartier qui est composé d'énormément de nationalités, les gens se croisent, ils n'ont pas tous la même religion, ils n'ont pas tous la même couleur, ils n'ont pas tous le même parcours, et je pense que si on s'intéresse aux plus modestes, parmi nous et parmi ces gens qui sont mis de côté, je crois que c'est intéressant de comment dire, de pouvoir partager aussi toujours des moments d'humanité avec des jeunes gens qui, pour beaucoup, ont eu des traversées compliquées. Et c'est vrai que lorsqu'on apprend à connaître ces jeunes gens, lorsqu'on s'attache à eux, s'attache à eux, non pas juste de manière, comment dire, dans du pathos compassionnel, mais simplement en s'adressant à d'autres êtres humains, bah, on se rend compte que, bah, qu'ils sont des parcours intéressants, qu'il y en a certains qui sont formidables et d'autres qui sont vraiment des imbéciles, hein, mais comme serait tout le monde. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'avoir un regard complètement béat, mais simplement se dire, bah, dans notre société, on a des gens qui sont en souffrance. Ces jeunes en font partie, mais comme les jeunes qui, comme les gens qui n'ont pas de travail, comme les gens qui ont du mal à se loger. Et donc, moi, j'aime bien en parler parce que je trouve que on les met un peu de côté, ils sont invisibilisés et ils sont souvent aussi les premiers, comment dire, ils sont victimes d'un certain. Il y a un regard sur eux que je trouve assez dommage et pathétique. Donc, c'est une manière aussi de parler de tout le monde. En parlant d'eux, on parle de tout le monde d'une certaine manière.
Et la suite du programme ?
La suite du programme, donc le soir même, on a un concert avec un groupe Oxymore qui est composé d'Orléanais. Donc c'est de la musique arabo-andalouse et la particularité de cette soirée, c'est que les spectateurs seront avec les artistes sur le plateau, le grand plateau du TGP. Donc c'est un concert vraiment festif pour 70-80 personnes parce qu'on est une jauge limitée, mais l'idée étant vraiment d'être très proche des artistes, de pouvoir vivre un moment festif autour de musique du monde et porté par essentiellement des Orléanais. Voilà, donc j'avais envie qu'on puisse retrouver ce moment festif. Le samedi soir, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est vrai que la source, c'est quand même un coupe-gorge assez dangereux. Donc pour ceux qui oseront braver la peur et le danger de venir jusqu'à la source, ils pourront vivre un moment sympathique et singulier au théâtre à 21h ce soir-là.
Bon, on a déjà des étudiants qui sont sur le campus, eux, ils pourraient venir déjà.
Ah oui, mais ça, alors donc on va avoir des étudiants qui vont venir voir battre encore. Je pense que les étudiants, je ne sais pas si la culture ne les intéresse pas ou s'ils ne se sentent pas autorisés à vivre autre chose que ce qui est proche d'eux immédiatement. En tout cas, c'est-à-dire que j'ai envie de les inviter à faire ce pas de côté, de sortir, d'aller ailleurs, quoi, parce que je crois que les étudiants, bah, sont comme les autres personnes de la société. Ils sont pas différents. Ils vivent dans leur monde et ils ont du mal à faire ce pas de côté. Et c'est vrai que même sur des choses qui se passent à 100 mètres de chez eux, c'est compliqué pour eux d'y aller. Donc, au théâtre Gérard Philippe, ils ne se déplacent pas ou peu, comme ils ne se déplacent pas ou peu au Bouillon, qui est quand même l'espace culturel de l'université et qui leur est destiné avec souvent des programmations gratuites. Donc la question, c'est plutôt de se dire, bah, comment ils viennent. Je pense pas que c'est parce que ça les intéresse pas. Je crois qu'on a, il y a comme une cassure aujourd'hui entre ceux qui vont jusqu'à des lieux culturels, ceux qui n'y vont pas.
Et donc le festival revient ensuite le 3 décembre.
Oui, on a pendant 3 jours, on fait une programmation jeune public. Donc avec le spectacle Auto, qui est joué aussi par deux Orléanais, Guillaume Schenck et Frédéric Ferrand, voilà, donc qui est un spectacle autour de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et l'expérience d'un ours en peluche, hein, avec le spectacle Auto et le texte d'Unger. Donc il y a 3 représentations qui sont à destination des scolaires, essentiellement des écoles de la source qui seront présentes. Et puis une représentation tout public le mercredi après-midi. On accueille également des publics qui viennent de l'Argonne, donc notamment de l'Union Pétanque Argonnaise, que je salue, et qui essaie de faire aussi un gros travail de territoire sur le quartier de l'Argonne. Oh oui, et puis enfin, on finit par le 5 et le 6, il y a des choses le 5 et le 6. Le 5, nous proposons Alpenstock, un texte de Rémi DeVos dans l'après-midi. Donc là, c'est une sortie de résidence d'une pièce que je mets en scène avec Elisabeth Mazef, Samuel Chouin et Christophe Vandevelde. Pièce qui pose la question aussi du rapport entre l'autochtone et l'étranger, de manière drôle et assez violente. Donc c'est un spectacle à pas mettre entre toutes les mains. Donc c'est pour ça qu'on le propose l'après-midi, pour que les gens ne puissent pas trop venir. Non, mais c'est surtout parce que c'est une sortie de résidence. Et puis il y a aussi le travail du tri collectif qui sera fait au Collège Montesquieu durant toute la semaine la première semaine de décembre avec une classe de les classes de SECPA du collège, et c'est un très beau travail qui est proposé par deux artistes du Tricollectif et qui sera proposé le vendredi après-midi en accès libre. Donc c'est des élèves qui ont présenté le travail qu'ils auront fait toute la semaine avec Adrien Chenbeau notamment et Titi Robin. Voilà, donc un travail entre écriture et musique.
Je voilà, suis
le 6 au collège Montesquieu.
Je suis très content d'être l'ami de ce monsieur l'universaliste, Thierry Falvisader, directeur du Théâtre Charbon.
Oui, et juste pour précision pour les étudiants et étudiantes, sachez que vous avez des tarifs réduits, hein. C'est idem pour les habitants de la Source. Si c'est une question de budget, Thierry a fait en sorte que vous puissiez venir faire de la culture à bas prix aussi. Mmh. Mais de qualité. Ouais.
On va terminer cette émission rapidement avec l'exposition de Malik Nejmi qui s'appelle Terre-Terre.
Soigner le quartier.
Soigner le quartier. On parle toujours du quartier de la Source.
Exactement. Alors, on n'avait pas revu Malik Nejmi depuis la journée de la Source du 29. Hein, tu t'en souviens, Hassan, hein. Journée à l'issue de laquelle on avait parlé de la résidentialisation et des murs qui se construisent entre les habitants de la banlieue. Mmh. Et donc, Malik, artiste et photographe, hein, il n'en a pas fini avec la Source et il revient honorer le quartier de son enfance à travers une exposition Terre-Terre. Soigner le quartier. Cette fois-ci, c'est la Source qui s'invite en centre-ville à la collégiale Saint-Pierre-le-Pulier. C'est comme ça
ouais. Saint-Pierre-le-Pulier,
voilà,
absolument.
Nickel. Et vous le savez, avec Daniel et Hassan, hein, par la rédac pop et à bâton rompu, on a beaucoup suivi son œuvre, donc il était logique qu'on amène notre micro jusque là-bas. Pour le vernissage du 22 novembre dernier, ce projet prend pour point de départ hein, une prise de conscience chez Malik à l'annonce de la destruction de la T17, on s'en souvient tous, hein, et il raconte qu'il a avoir vécu la destruction de ce bâtiment comme une violence collective, et c'est par l'art thérapeutique qu'il a voulu honorer le quartier dont il est originaire. Malik a réuni dans son travail des bouts de monde, hein, pour reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure, et quel bout, hein. 70 communautés qui vivent au quartier de la Source, hein, un quartier qui est sorti de terre en 1973. Le travail de Malik a toujours été guidé par les imaginaires et les rêves. Il a vu en la Source la projection d'un ailleurs. Il cherche à présenter ce quartier pour ce qu'il est, hein, un lieu de rencontre des